journal Loïc Barrière. L'Ukraine a suspendu l'évacuation de Marioupol, affirmant que le cessez-le-feu dans cette ville n'est pas respecté par l'armée russe. Le président Macron se dit, lui, extrêmement préoccupé par la sécurité des centrales nucléaires. Une grande manifestation cet après-midi à Paris pour dire la solidarité de la France avec les Ukrainiens. Vladimir Poutine est dans une volonté impérialiste d'écrasement du peuple ukrainien, affirme sur Radio Orient Safia Haït Warabi, vice-présidente de SOS Racisme, présente à cette manifestation. La visite en Iran du chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, objectif parvenir à un accord sur le nucléaire iranien. 27 militaires maliens tués dans une opération terroriste dans le centre du Mali. Enfin, les 15 ans de la loi Dalo, entretien avec Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de l'association Droit au logement. Au 10e jour de la guerre en Ukraine, la ville assiégée de Marioupol a suspendu l'évacuation des civils. Un cessez-le-feu avait été obtenu, mais l'arrêt des combats dans ce port stratégique de la mer d'Azov n'a pas été respecté selon les autorités ukrainiennes. C'est dans ce contexte que Vladimir Poutine a lancé un avertissement au pays qui serait tenté d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Pour le président russe, toute évolution en ce sens serait considérée comme une participation au conflit armé. L'OTAN a déjà rejeté l'idée d'une zone d'exclusion aérienne comme demandé par les autorités de Kiev. Poutine a également signé un texte prévoyant de punir jusqu'à 15 ans de prison la propagation d'informations visant à discréditer les forces armées russes. La France, elle, va proposer des mesures concrètes pour la sécurité des centrales nucléaires. Emmanuel Macron se dit extrêmement préoccupé. Hier, l'attaque de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia a attisé les craintes d'une catastrophe nucléaire. À Paris, des milliers de personnes ont manifesté cet après-midi leur soutien à l'Ukraine. Yannick Jadot et Anne Hidalgo, candidats à l'élection présidentielle, étaient présents. Parmi les organisations qui avaient appelé à cette manifestation, Place de la République, SOS Racisme, on écoute la vice-présidente de l'association, Safia Haït Warabi.
Il est important d'être présente à cette manifestation en solidarité avec la résistance ukrainienne face à l'agression de Vladimir Poutine, parce qu'en fait, je crois que dans ces moments, avec ces images qui sont aussi glaçantes, il y a une torpeur, une tristesse généralisée qui a lieu en Europe et dans le monde, notamment en France, on se doit d'être au rendez-vous. Et personnellement, en tant que militant antiraciste, on se doit de dire non à la guerre, oui à la paix, solidarité avec la résistance ukrainienne face à cette agression, parce qu'en fait Vladimir Poutine, il est dans des volontés impérialistes et d'écrasement du peuple ukrainien.
Vous avez le sentiment que Vladimir Poutine peut être sensible à toutes ces manifestations qui se déroulent dans toute l'Europe ?
Aujourd'hui, Vladimir Poutine, il est une figure d'irrationalité, de folie guerrière. Je ne crois pas que Vladimir Poutine peut être sensible à des élans citoyens. Par contre, Vladimir Poutine peut se sentir affaibli. Vladimir Poutine peut se sentir seul. On le voit avec ces images un peu folles, où il se tient à l'écart de son état-major, où plus le temps passe, plus les tables vont grandir, et c'est un peu ça, plus le temps va passer, plus nous devons faire en sorte que Vladimir Poutine se sente seul. Par contre, nous aussi, en tant que militants, organisations des droits de l'homme, on se doit de soutenir aussi cette population russe qui se sent seule et écrasée aussi par Vladimir Poutine, parce qu'en fait c'est ça, je crois que la solidarité citoyenne, elle doit être générale, elle doit s'adresser à la résistance russe et elle doit s'adresser au peuple russe pro-démocratie qui veut se soulever contre Vladimir Poutine.
La France doit accueillir des réfugiés ukrainiens aujourd'hui.
La France doit accueillir des réfugiés ukrainiens aujourd'hui, demain, après-demain, tant qu'il le faudra. Et c'est vrai qu'en tant que militante antiraciste, et notamment à SOS Racisme, il est de notre devoir aujourd'hui en France de combattre des discours xénophobes qui ne voudraient pas accueillir les réfugiés ukrainiens, mais aussi combattre des discours qui mettraient en compétition les réfugiés de différentes origines. Aujourd'hui, la France a un devoir d'accueil des réfugiés ukrainiens, de tous les réfugiés, peu importe leur origine, et on doit aussi aussi combattre, je crois, une rhétorique. Aujourd'hui, c'est encore une petite musique, mais que personnellement, je commence déjà à entendre, qui serait de, eh bien, de toute façon, les Ukrainiens, un jour, ils vont retourner chez eux. Les Ukrainiens retourneront chez eux seulement s'ils en ont envie. On doit se sentir prêt et capable de les accueillir tant qu'il le faudra, et évidemment et surtout sur du long terme.
Vous avez le sentiment que pour les militants comme vous, c'est un moment historique?
Je pense que toute guerre, parce qu'elle marque, est un moment historique. Cependant, j'aimerais que ce soit un moment historique par la solidarité citoyenne, la solidarité des peuples. Je pense que cette manifestation aujourd'hui à République, je suis en plein dedans, on est très nombreux, de différentes origines, d'âges différents. L'actualité internationale, on le sait, a tendance à politiser la jeunesse. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait en France. Et j'aimerais, moi aussi, en tant que jeune en France et militante, dire toute ma solidarité à la jeunesse ukrainienne et aussi à la jeunesse russe qui va se lever contre Vladimir Poutine.
La vice-présidente de l'association SOS Racisme, Safia Haït Ouarabi. Au Mali, une attaque djihadiste contre un camp de l'armée malienne dans le centre du pays a fait 27 morts ce vendredi dans les rangs des soldats. 33 soldats ont également été blessés. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés, affirme l'armée dans un communiqué. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière rapportée contre les forces maliennes depuis plusieurs mois. Une attaque condamnée par la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Le Pakistan a révisé à la hausse le bilan de l'attentat suicide commis dans une mosquée chiite de Peshawar ce vendredi. L'attaque a fait 62 morts, un attentat revendiqué par l'État islamique. L'arrivée à Téhéran de Raphaël Grossi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il doit rencontrer les responsables iraniens alors que les grandes puissances tentent de sauver l'accord sur le programme nucléaire de l'Iran. Selon lui, le moment est critique, mais un résultat positif pour tous est possible. La Chine va augmenter son budget militaire de 7,1% cette année. Pékin dispose du deuxième budget de défense au monde après les États-Unis. L'arrestation en Belgique d'un Belge d'origine marocaine soupçonné d'être impliqué dans la préparation de projets terroristes imminents au Maroc. Il a été arrêté avec la coopération des services de renseignement marocains. C'est ce qu'a annoncé la police antiterroriste marocaine. La nuit du doute qui doit déterminer la date du début du Ramadan aura lieu le vendredi 1er avril. C'est ce qu'a annoncé hier la grande mosquée de Paris. Le recteur Chems Eddin Hafiz ajoute qu'en ces heures où la paix est en péril, les imams de la grande mosquée de Paris et lui-même invitent l'ensemble des musulmans de France à multiplier les invocations au cours de ce mois de Shaaban pour la fin des conflits armés et pour que la fraternité regagne le cœur des hommes. Plusieurs millions de Français de confession musulmane vont jeûner pendant un mois entre début avril et début mai. Les 15 ans de la loi Dalo, la loi pour le droit au logement opposable, elle avait été adoptée le 5 mars 2007. Qui aujourd'hui peut être bénéficiaire d'un logement social en France? Entretien avec le porte-parole du droit au logement, Jean-Baptiste Hérault.
C'est une question de revenus. Bon, faut savoir qu'en gros, les deux tiers des ménages en France sont accessibles à un logement social. Hein, c'est des niveaux de revenus qui sont relativement élevés. Pour le logement social standard, qu'on appelle le PLA ou le plus, enfin bon, ce qui représente à peu près 80% des logements sociaux en France. Et puis, on a le logement très social avec là des niveaux de revenus un peu plus bas, effectivement, des niveaux de loyer aussi un peu plus bas, mais qui sont autour de 5 euros le mètre carré. Et puis, on a une troisième catégorie, ça c'est le logement social pour les, entre guillemets, classes moyennes ou des revenus un peu plus aisés, bien que de plus en plus, ils rentrent au chausse-pied dans ces logements. Des gens avec des revenus vraiment tout juste, quoi, qui leur permettent tout juste de payer un loyer qui est quand même assez cher. Et donc, c'est ce qu'ils appellent les PLS. Bon, et ces logements-là, souvent, on va retrouver, notamment sur Paris ou la proche banlieue, on va retrouver des ménages avec des petits revenus qui ont un accident de la vie et qui peuvent plus payer parce que les loyers sont trop chers. Donc, vous voyez, c'est les trois catégories de logements sociaux qu'on a. Et ce qu'on peut dire, c'est que grosso modo, le logement social est accessible à, vous l'avez dit, 2/3 des ménages en France. Donc, il n'y a pas de problème, si vous voulez, de ressources maximum. Mais par contre, il y a un problème de ressources minimum aujourd'hui qui se pose de plus en plus parce que les loyers ont augmenté dans le logement social. Et les APL ont baissé. Donc les ménages à plus bas, aux revenus les plus bas, c'est-à-dire qui sont payés au SMIC, avec des enfants par exemple, ou qui sont dans des boulots précaires, ou qui sont au chômage, ou qui sont qui touchent les minima sociaux, parce que bon, il y a des fois où on peut pas travailler physiquement, c'est pas possible. Enfin bon, et donc là, pour ces personnes-là, c'est très difficile d'accéder à un logement social aujourd'hui.
Comment se fait la sélection ?
On a 2,2 millions de demandeurs de logements sociaux en France. Après, c'est très compliqué. Le système d'attribution HLM est très compliqué en France. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les zones tendues comme l'Île-de-France, on a 750 000 demandeurs HLM pour 70 000 attributions dans l'année maximum. Ça veut dire que c'est 10 ans d'attente en moyenne, quoi. Sur Paris, on est plus à 15 ou 20 ans. Donc, pour passer, c'est pas évident. Hein. C'est-à-dire qu'il faut répondre à des critères de priorité, prétendument, mais aussi, en même temps, avoir des revenus qui correspondent. Les locataires ne doivent pas consacrer plus d'un tiers de leurs revenus au loyer quand ils arrivent dans le logement. Ils sont sélectionnés à partir de ça. Donc, ce qui veut dire que les ménages à plus bas revenus sont évincés, forcément. Et puis, par contre, il y a des obligations aussi. Quand on est prioritaire d'allô, on a plus de chances d'obtenir un logement social. Mais il faut quand même se mobiliser, faut bouger. Ce que nous, on fait, un droit au logement, on va interpeller les bailleurs, les acteurs du logement social pour qu'ils relogent des familles, avec les familles qui se mobilisent, bien sûr. Mais on a des situations de plus en plus difficiles. Et puis, on a aussi beaucoup de gens qui sont expulsés de leur logement. On a une spéculation immobilière qui est de plus en plus forte, hein, une pression très forte, et qui fait que des ménages, je sais pas, même des retraités, beaucoup de retraités aujourd'hui qui viennent nous voir, qui sont l'objet d'un congé par leur propriétaire, et qui savent pas comment ils vont faire. S'ils sont expulsés, ils savent pas comment ils vont s'en sortir. Donc on a une aggravation de la crise du logement qui touche de plus en plus large, qui est le fruit, en fait, de la cherté des prix d'immobilier, des prix des loyers, mais aussi des politiques publiques qui ont été conduites, qui ont amené à une baisse de la production de logements sociaux, l'insuffisance de logements sociaux, mais aussi à la baisse des APL, à la baisse des revenus aussi, hein, des ménages modestes, donc la question du pouvoir d'achat. Et dans la question du pouvoir d'achat, le problème numéro un, c'est le logement. Le problème numéro deux, c'est l'énergie. Et c'est là-dessus qu'il faudrait que les candidats se positionnent aujourd'hui aux élections présidentielles. Pour l'instant, c'est pas un sujet. Il faut que le sujet continue à monter. Et pour ce faire, il faut non seulement interpeller à travers les médias, faire des campagnes et tout, mais il faut aussi faudrait que les mal logés, les locataires se mobilisent et descendent dans la rue. Ce sera un élément déterminant. C'est comme ça d'ailleurs qu'en Allemagne, les locataires à Berlin ont obtenu un encadrement général des loyers immédiat avec baisse des loyers, etc., contrôle, amende pour les bailleurs contrevenants et qui ne respectent pas l'encadrement. Donc la mobilisation des locataires et des gens concernés, en fait, hein, elle est importante, elle est essentielle.
Parce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il existe une forme de soumission de la part des locataires qui ne connaissent pas forcément leurs droits et à qui vous conseillez d'ailleurs de se rapprocher des associations ?
Ah oui, on peut dire qu'en règle générale, de plus en plus, hein, on assiste à une fraude dans les rapports locatifs. Beaucoup de bailleurs ne respectent pas l'encadrement des loyers qui est pourtant pas très sévère. Hein. Mais dans les nouvelles locations, 30, 40, 50% suivant les secteurs, des locations ne respectent pas l'encadrement des loyers. On a aussi le gel des loyers à la relocation, c'est-à-dire l'interdiction pour le bailleur de louer le logement plus cher au nouveau locataire qu'à l'ancien. Qui respecte ça ? Personne. Parce que le locataire ne peut pas vérifier. Il connaît pas l'ancien locataire. En fait, il faudrait que le locataire se retourne contre son bailleur si jamais il connaît l'ancien locataire, etc. Bon, donc il faut saisir le juge, c'est compliqué. Donc, c'est-à-dire il n'y a pas de sanction. Il y a aussi la question des normes de décence, des logements avec des taches d'humidité, etc. Et on en a plein, enfin des logements qui sont humides et qui répondent pas à la décence, qui sont avec des fuites ou des un mauvais éclairage, une installation électrique défectueuse, chauffage, etc. Bon, ça c'est très 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 fréquent dans le parc locatif populaire. Et là aussi, hein, les règles sont pas respectées, etc. Il y en a plein comme ça. Des mesures en fait qui ont été prises dans les lois, mais qui ne sont pas respectées. Et comme il n'y a pas de contrôle et il n'y a pas de sanctions directes, hein, j'entends un service, comme on grille un feu, bon bah voilà, on se reçoit un PV, bah, paf, procès verbal et une amende. Bah là, rien du tout. Et rien du tout. On laisse le locataire tout seul devant le juge. Évidemment, ça marche pas. Le locataire, il a peur de son bailleur, c'est normal, quoi. Le rapport de force n'est pas favorable. Parce que on a peur avant tout de perdre son logement, de se retrouver dans la rue.
Le porte-parole du droit au logement, Jean-Baptiste Hérault, il répondait à François-Xavier de Calonne. Le procès des complices des djihadistes du Bataclan, le procureur a réclamé de la prison ferme contre la mère d'un des terroristes. Fatima Haji, âgée de 54 ans, est accusée de financement du terrorisme. Selon le procureur, elle a placé l'amour filial au-dessus de tout. Selon lui, elle ne partageait pas cette idéologie, mais avait parfaitement connaissance de la nature du groupe État islamique et des activités de son fils. À Marseille, un adolescent de 17 ans a été tué à coups de couteau. Il aurait été victime d'une agression de bande, selon la procureure de la République de Marseille. Les Jeux paralympiques ont commencé hier à Pékin avec une première médaille d'or française pour le skieur Arthur Baucher. Enfin, l'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 23h est l'écrivain René Guiton. Il publie 50 moments clés de l'histoire de l'Orient dans la collection 3 minutes pour comprendre au courrier du livre. Rediffusion de cette émission dimanche à 19h. À midi et 18h ce dimanche, vous retrouverez François-Xavier de Calonne. Excellente soirée à tous à l'écoute de Radio Orient.